Cambriolage à la banque des rêves. Dès le matin, les choses commencèrent mal. Plusieurs rêveurs s'agitèrent dans leur lit comme s'ils étaient mal à l'aise. Ils gémissaient et se plaignaient en se retournant d'un flanc sur l'autre. Élodie comprit qu'à ce train-là, il ne tarderait pas à faire un cauchemar. Elle s'empressa de les bercer et de leur fredonner les bouts d'une chanson apprise la veille, mais rien ne fonctionna. Alors qu'elle tapotait l'oreiller d'un petit garçon, elle s'aperçut qu'on avait répandu des cravillons dans les draps. Voilà pourquoi les dormeurs se plaignaient. Les petits cailloux les blessaient, provoquant dans leur cerveau des rêves désagréables. « C'est du sabotage, » se dit la jeune fille. « Ces graviers ne sont pas venus là tout seuls. Quelqu'un les y a mis. » Immédiatement, elle songea à Nathalie. La fille aux cheveux nattés ne l'aimait pas, et elle avait trouvé là une manière habile de se débarrasser de la petite nouvelle. Élodie courut d'un lit à l'autre, essayant de nettoyer les draps aussi vite que possible. C'était difficile, car il lui aurait fallu être partout à la fois. Elle s'embrouillait dans les berceuses, chantait trop fort. Alors qu'elle s'apprêtait à nettoyer le dernier lit, le rêveur, un jeune garçon d'une dizaine d'années, ouvrit la bouche pour cracher un serpent noir long d'une cinquantaine de centimètres. Élodie fit un bond de côté, échappant de justesse au croc du reptile qui semblait de fort méchante humeur. Né d'un cauchemar, le serpent en voulait à la terre entière. Il se mit à onduler sur le sol, se lançant à la poursuite d'Élodie pour la piquer aux chevilles. La jeune fille recula, terrifiée. La vipère brillait comme un morceau de réglisse. Elle ressemblait davantage à une friandise qu'à un vrai serpent, pourtant elle était dangereuse. À l'autre bout du couloir, Nathalie observait la scène, les mains dans les poches, sans faire mine de porter secours à Élodie. Celle-ci, après avoir échappé de peu à une nouvelle morsure, eut l'idée d'attraper une couverture sur un lit et de la jeter sur le serpent. Quand la bestiole fut recouverte par l'étoffe, l'adolescente sauta dessus à pieds joints, l'écrabouillant. Elle s'essuya ensuite le front d'un revers de manche et retourna s'occuper des dormeurs dont elle inspecta la literie à la recherche d'autres mauvaises surprises. À midi, elle retrouva Tinky Pinky au réfectoire. Le lapin avait entendu parler de sa mésaventure, il en était contrarié. « Cela me conforte dans l'idée qu'il ne faut pas s'attarder ici, » souffla-t-il. « Nous n'y ferons pas de vieux os. » « Cette Nathalie te déteste. Elle recommencera jusqu'à ce que Bolbec décide de te punir. » « Je me suis renseigné. Le coffre-fort qui nous intéresse se trouve dans l'aile nord du château. » « Quand Bolbec demandera des volontaires pour porter la malle aux pièces d'or à la salle des dépôts, il faudra saisir l'occasion. » « Ce ne sera pas difficile. Les serviteurs ont peur d'aller dans cette partie de la forteresse à cause des sentinelles qui ne perdent pas une occasion de les tourmenter. » Bolbec nous prendra pour des lèche-bottes et nous confiera la corvée sans se douter de rien. « D'accord, » murmura Élodie. « J'ai hâte de m'en aller. Quand mes parents régneront de nouveau sur ce pays, je leur demanderai de supprimer cet endroit et de libérer les rêveurs. »« Chut !» lui intima le lapin. « Tu parles trop fort. Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. » Élodie attendit le soir avec impatience. Sa récolte de pièces d'or fut plutôt mince, mais quand Bolbec réclama des volontaires pour pousser la malle contenant la recette de la journée jusqu'à la salle des dépôts, elle se dépêcha de lever la main. « Alors, la nouvelle !» ricana Nathalie dans son dos. « On faillote ?» Élodie et le lapin empoignèrent la malle montée sur roulette et entreprirent de la pousser à travers les corridors du château. Bolbec avait bouclé la serrure au moyen d'un gros cadenas afin de leur épargner la tentation de voler quelques écus au cours du transport. Tinky Pinky s'était renseigné sur le chemin à suivre. Néanmoins, l'itinéraire était si compliqué qu'ils durent demander leur chemin à un valet. « Soyez prudents, » leur recommanda celui-ci. « La salle des coffres est comme une fosse aux lions. Je ne vous conseille pas de vous en approcher de trop près. » Après avoir longuement erré dans les couloirs grisâtres, ils arrivèrent enfin au bureau de la comptabilité où on les délesta de la malle. Ils firent alors mine de s'en retourner docilement. Mais le lapin bifurqua vers la droite au premier carrefour. « Tu vois cette meurtrière ? » demanda-t-il en désignant une ouverture dans le mur moisi. Elle donne sur une cour intérieure. Un adulte ne pourrait s'y faufiler. Un enfant, si. Je suppose que l'enfant, ce sera moi, grogna Élodie. Évidemment, tu descendras dans la cour au moyen d'une corde à nœuds. En bas, tu découvriras une courette étroite, une espèce de fosse aux ours. Le coffre-fort qui contient tes souvenirs s'y trouve. Je préfère te prévenir. C'est un coffre vivant. Il a des pieds. Il peut courir, sauter. C'est d'ailleurs ça qui le rend dangereux, car il bondit sur les gens qu'il ne connaît pas et les écrase contre le mur, comme un marteau pilon. « Quoi ?» protesta Élodie. « Et tu veux m'expédier là-bas ?»« Ne discute pas, coupa Tinky Pinky. Je vais te faire la courte échelle, jette un coup d'œil par la meurtrière. » L'adolescente obéit. Le lapin avait vu juste. Elle était assez mince pour s'insinuer dans l'ouverture sans courir le risque d'y rester coincée. Penchée au-dessus du vide, elle regarda en bas. Un gros cube d'acier monté sur des pieds d'éléphant faisait les 100 pas au fond de la fosse de granit. Tout autour de lui s'étalaient les squelettes des voleurs imprudents qu'il avait aplatis contre les murs. Leurs os craquaient sous ses grosses pattes. Soudain, il sentit qu'on le regardait et se pencha en arrière en reniflant, comme s'il cherchait à repérer où se cachait l'intrus. Au-dessus de la porte qui lui tenait lieu de ventre, Élodie distingua une sorte de nez avec des narines palpitantes. Le coffre parut mécontent d'être observé, car il se jeta de toutes ses forces contre le mur, faisant trembler les pierres de la maçonnerie. Surprise, la jeune fille poussa un cri aigu et fit un bond en arrière. Perdant l'équilibre, elle dégringola sur le lapin. Tous deux se retrouvèrent empêtrés sur le sol. « Tu en as assez vu, » murmura Tinky Winky, fichant le camp avant d'être repéré. « Cet imbécile de coffre risque d'ameuter la garde à force de se cogner contre la muraille. » « Tu es complètement fou, » protesta Élodie. « Si je descends dans cette cour, le cube d'acier va m'écraser aussitôt. Je n'ai aucune chance de réussir. »« Tu te trompes. Il existe un moyen. »« Tu as remarqué qu'il n'a pas d'yeux ?»« Oui, mais il possède une espèce de groin. »« Exactement. Il est aveugle, mais utilise son flair pour identifier ce qui l'approche. »« Quand il ne reconnaît pas une odeur, il devient fou furieux et écrabouille l'intrus en se jetant sur lui. » Comme il pèse 2 tonnes, ça lui est assez facile. Élodie fulminait. Elle se demanda si le lapin rose avait perdu la raison. Prise en sandwich entre le cube d'acier et le mur de granit, elle serait aplatie comme une saucisse sous un rouleau compresseur. « Ne fais pas cette tête, lança Tinky Winky. Par la grande carotte verte, si je t'envoie là-bas, c'est que j'ai le moyen de vaincre cette stupide boîte de fer. » Son point faible, c'est justement son nez, son flair. S'il attrapait un rhume, s'il se mettait à éternuer jour et nuit, il ne serait plus capable de sentir quoi que ce soit. « Oh, je commence à comprendre, » fit la jeune fille, « et tu as justement un échantillon de rhume en conserve, là dans ta poche. Pas moi, mais Thierry de Montpéril pourrait nous fournir ça. Il suffit de le lui demander. » Élodie glissa aussitôt la main sous sa blouse et se frotta l'épaule. Elle n'était pas mécontente de revoir le jeune homme. En fait, elle se demandait si elle n'était pas en train de tomber un peu, oh, rien qu'un tout petit peu, amoureuse de lui. Le garçon se matérialisa dans la pénombre du couloir. Tinky Pinky le pria d'interrompre ses courbettes et lui exposa la situation en le suppliant de faire vite, car des gardes pouvaient surgir à tout moment. Thierry fronça les sourcils, fouilla dans son pourpoint et en sortit une fiole de verre bouchée à la cire. « Voilà, dit-il, c'est le virus de la grippe éternueuse. Très efficace, mais il faudra le jeter exactement sur le nez du coffre-fort pour qu'il s'y brise. Son action est immédiate, mais limitée dans le temps. Pour ne pas être contaminée lorsqu'elle s'approchera du coffre, votre Altesse devra avaler cette pilule. » Il remit à Élodie la fiole et un gros cachet jaune. « Tout ça est super intéressant, » grogna la jeune fille. « Mais je ne vois pas en quoi les éternuements du coffre-fort me permettront de récupérer ce qu'il contient. » « Réfléchis un peu, » s'impatienta le lapin. « Ce virus est affreusement virulent. Dès qu'il se sera contaminé, le coffre va se mettre à éternuer sans relâche, jour et nuit, à raison d'un éternuement toutes les 10 secondes. À ce régime-là, il sera totalement épuisé au bout de 24 heures. Quand tu descendras dans la cour, non seulement il ne flairera pas ta présence, mais il sera dans l'incapacité de réagir lorsque tu ouvriras la porte qui donne accès à son ventre. « J'espère que tu ne te trompes pas, » soupira Élodie, « sinon je finirai en chair à pâté. » « Maintenant, il s'agit de bien viser, » remarqua Thierry. « Votre Altesse doit veiller à ce que le tube s'écrase sur le nez du coffre. S'il tombe sur le sol, le virus perdra de son efficacité et les éternuements ne seront pas assez violents. « Tu ne veux pas le faire à ma place ?» demanda la jeune fille. « Ce serait avec plaisir, » répondit le garçon. « Mais mes épaules sont trop larges. Je ne parviendrai pas à me faufiler par la meurtrière. »« D'accord, » gémit Élodie, résignée. « Allons-y, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. » Le tube à la main, elle se hissa dans l'ouverture grâce aux efforts conjoints du lapin et du jeune chevalier. De nouveau, le coffre-fort trépigna de rage en détectant son odeur. Il n'aimait visiblement pas qu'on empiète sur son territoire. Ses grosses pattes piétinèrent les squelettes entassés au fond de la cour, achevant de les réduire en miettes. « Il a vraiment l'air méchant, » songea l'adolescente. « Si je rate mon coup, il m'écrabouillera comme une tomate mûre. » Levant le bras, elle visa le mufle du cube d'acier avec soin. Elle n'était pas trop sûre d'elle, car elle n'avait jamais pratiqué ces jeux de garçon. Elle fut très soulagée lorsqu'elle vit la fiole se briser sur le groin du coffre-fort et le produit lui dégouliner dans les narines. « Vite, en arrière !» commanda Thierry. « Ce n'est pas le moment d'attraper la grippe en même temps que cette ignoble créature. » Élodie fut troublée quand les mains du garçon l'empoignèrent par la taille pour l'aider à descendre de son perchoir. « Oh là là » songea-t-elle, « je suis en train de me mettre dans une drôle d'histoire. Est-ce vraiment raisonnable de tomber amoureuse d'un tatouage imprimé sur une épaule ?»« Parfait !» siffla Tinky Binky en se frottant les mains. « Nous reviendrons dans 24 heures. Maintenant, il s'agit de donner le change jusque-là et de conserver notre tête. » Élodie éprouva un pincement au cœur en voyant Thierry se dématérialiser. Mais bon, elle était princesse et lui simple chevalier. Il n'y avait sûrement rien à espérer de ce côté-là. L'ennui, se dit-elle, c'est que je ne me sens pas du tout princesse. Cela viendra peut-être lorsque j'aurai récupéré mes souvenirs. J'espère que je ne changerai pas trop. Pourvu que je ne me transforme pas en une horrible pimbèche prétentieuse et stupide. Elle aurait voulu parler de ses craintes avec le lapin rose, mais celui-ci avait d'autres chats à fouetter. Le reste de la journée s'écoula sans incident. Trois nouveaux élèves moururent pendant le cours de chant de maîtresse Symphonia. Les berceuses magiques avaient à un tel point ralenti leur fonction vitale que leur cœur avait tout bonnement cessé de battre. Les autres, plus malins, s'étaient bouchés les oreilles à temps. Pendant la nuit, alors qu'elle se retournait sur sa paillasse, Élodie eut la satisfaction d'entendre un bruit lointain qui la rassura quelque peu. C'était le coffre-fort prisonnier de la cour intérieure qui éternuait à s'en arracher les narines. Le stratagème de Tinky Binky fonctionnait comme prévu, mais le plus dur restait encore à faire. La journée du lendemain parut interminable aux deux amis. Ils durent donner le change dans le dortoir des rêveurs, alors qu'ils brûlaient de courir cambrioler le coffre-fort enrhumé. Il leur fallut, hélas, attendre jusqu'au soir pour être enfin chargés de convoyer la malle de pièces d'or jusqu'à la comptabilité. Une fois celle-ci remise au trésorier de la forteresse, ils se glissèrent dans le labyrinthe des corridors pour rejoindre la cour intérieure. Au fur et à mesure qu'ils s'en rapprochaient, les éternuements prenaient l'allure de véritables détonations. « Je me suis procuré une corde, » expliqua le lapin. « Je suis venu la cacher ici pendant la nuit. Elle est dans ce recoin. J'ai aussi un panier. Tu y entasseras les gâteaux contenus dans le coffre. N'en oublie aucun. Prends-les tous, même ceux qui te paraissent dégoûtants. Je te rappelle que les mauvais souvenirs ont toujours un aspect rébarbatif. Tu avais parlé de crottes de chien ? Oui, mais ça peut être autre chose. Je ne sais pas, moi. » Des tartines à la confiture de rat, des pots de compote d'araignée rouge, des crêpes de cheveux sales, ne les laisse pas de côté. Les mauvais souvenirs nous apporteront davantage d'informations que les bons. Ils nous indiqueront où tes parents sont détenus. Je sais, couina Élodie à bout de nerfs. Tu me l'as déjà dit, je ne suis pas totalement idiote, même si je ne suis pas encore une vraie princesse. C'est que tout cela est très important, s'excusa le lapin. Et pour le moment, tu raisonnes encore comme une collégienne de 12 ans. Par pitié, quand je serai redevenue princesse, ne me donne pas du « Votre Altesse » ou des trucs de ce genre, lança la jeune fille. Ça me gave grave. Ça ne risque pas, ricana Tinky Winky. Nous, les lapins, sommes très insolents et assez peu respectueux des coutumes. Nous n'avons foi qu'en la grande carotte verte. Comment ferons-nous pour quitter la forteresse? S'inquiéta l'adolescente. Les gardes nous laisseront-ils passer? Bien sûr, seuls les rêveurs sont prisonniers. Rappelle-toi que nous sommes venus de notre plein gré. Les valets se font engager par goût de l'or pour ramasser des pièces que leur abandonne Bolbec. Ils peuvent partir quand ils en ont envie. La plupart s'obstinent néanmoins à rester pour amasser plus d'écus, même si cela leur fait risquer la décapitation. Ils se turent, car leur meurtrière dominant la fosse de granit s'ouvrait devant eux. « Prends ton cachet, » ordonna le lapin en allant récupérer la corde qu'il avait roulée derrière une armure. « Inutile d'attraper toi aussi la grippe éternueuse, et ne reste pas trop longtemps en bas. Cet antidote ne te protégera pas plus de 30 minutes. » Élodie avala le comprimé et s'appliqua à discipliner les battements de son cœur. En réalité, elle mourait de peur. Tinky Winky attacha l'une des extrémités de la corde à un pilier et jeta l'autre par la fenêtre. Puis, il aida l'adolescente à se hisser jusqu'à la meurtrière. Élodie passa les jambes dans l'ouverture et empoigna les nœuds du cordage. Après quoi, elle se laissa pendre dans le vide, le nez à 10 centimètres de la muraille. À 15 mètres au-dessous d'elle, le coffre-fort se tenait assis dans un angle de la fosse. Il paraissait exténué et la morve lui coulait du nez comme l'eau d'une fontaine. Toutes les 10 secondes, un nouvel éternuement le secouait. On avait l'impression qu'il allait tomber en morceaux d'un instant à l'autre. Nœud après nœud, Élodie se laissa glisser vers le bas en essayant de ne pas penser aux ossements tapissant la cour. Quand ses semelles touchèrent le sol, elle faillit perdre l'équilibre car elle avait posé la semelle sur un crâne à moitié écrasé qui, la contemplant de son unique orbite, semblait penser « T'en fais pas, poulette, dans 3 secondes, tu seras beaucoup plus mince. Plus besoin de régime pour jouer les reines de beauté. » Élodie gonfla ses poumons et s'avança vers le coffre-fort en zigzagant entre les squelettes démantibulés. L'horrible boîte d'acier ne lui prêta aucune attention. Alors, très vite, la jeune fille s'agenouilla et saisit la poignée soudée sur la porte donnant accès au ventre du coffre. Décidée à en finir, elle l'ouvrit en essayant d'éviter les gouttes de morve qui tombaient du nez de la bestiole. À l'intérieur de la cavité, elle distingua 3 étagères couvertes de gâteaux. Certains à la crème, d'autres tout noirs, aux formes déplaisantes et qui ressemblaient à des araignées trempées dans du chocolat chaud. Rapidement, elle les transféra dans le sac en osier remis par Tinky Winky. Le coffre-fort poussa un grognement de protestation et s'agita comme s'il essayait de se remettre debout. « Oh !» pensa Élodie, « il n'est pas aussi épuisé que nous le pensions. Il se rend parfaitement compte de ce qui se passe. « Vite !» cria le lapin depuis la meurtrière. « Je crois qu'il va t'attaquer. Grimpe !» Élodie courut jusqu'à la corde et l'empoigna. Elle entendit dans son dos les grognements du coffre-fort qui se mettait debout et l'horrible craquement des os explosant sous ses pattes. Le souffle court, elle se hissa le long du filin aussi rapidement que possible. Le coffre se jeta contre la muraille, la manquant de 10 centimètres à peine. « Heureusement qu'il n'a pas de main, » songea l'adolescente, « sinon il se saisirait de la corde pour la secouer et me faire tomber. » Quand elle arriva au sommet, elle tremblait de tous ses membres. « Fichons le camp !» haleta le lapin. « Les gesticulations de cet imbécile vont attirer les gardes. Il faut sortir du château avant que l'alerte ne soit donnée. Tu as bien pris tous les gâteaux, même ceux qui avaient l'air immangeables ?»« Oui, » bredouilla Élodie, « mais je préfère ne pas y penser pour l'instant. »« Ok, » fit Tinky Winky, « dès que nous serons sortis du manoir, tu déplieras le sac kangourou. Nous enfourcherons Poco et il nous conduira à l'autre bout de la plaine. Les soldats auront beau pédaler comme des diables sur leurs bicyclettes rouges, ils ne nous rattraperont pas.